Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hilke.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La curiosité est un vilain défaut. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 15h sur RTL, avec l'immense Sidonie Bonnec. Comment ça va,
et
Sidonie?
Et le minuscule Thomas, c'est pas sympa. Ça
commence bien cette émission. On est mal barré.
Ça va, bon, Thomas?
Ça va très bien, en pleine forme.
Grâce à cette émission, on se marre, c'est vrai, mais pas seulement. Depuis le début du mois de janvier, on a découvert les secrets du masque de fer, du Big Bang. On a chanté avec France Gall et Étienne Dao. On a partagé le quotidien des Taubatou, ces derniers chasseurs-cueilleurs des Philippines.
Alors quoi d'autre? On s'est passionné pour le destin d'Émile Zola et du Mahatma Gandhi. On a appris l'origine de l'huile d'olive, celle du pain. Tout nous passionne, vous le voyez, et ça continue aujourd'hui.
Au programme du jour, la vie cachée des petits rats de l'Opéra de Paris. On va pousser les portes d'une école de danse qui existe depuis 2 siècles. Une école de l'exigence où l'on n'hésite pas à mesurer l'épaisseur de vos cuisses, la longueur de votre cou. C'est aussi une école, évidemment, où on apprend la discipline et la grâce. Ce sera vers 14h30 sur RTL.
Allez, tout de suite, les mots disparus de notre langue, de la langue française.
Vous connaissez balnéaire?
Oui.
Eh bien, balnéation, c'est le fait de prendre un bain. Pour des raisons thérapeutiques ou d'agrément, vous pratiquez la balnéation, en quelque sorte.
Thomas Hugues.
L'outeron, c'est un ouvrier agricole que l'on engage à la journée, au mois d'août, pour faire, comme on disait, l'out, c'est-à-dire les moissons.
Sidonie Bonnec.
La falourde. C'est un fagot fait de 4 ou 5 bûches. C'est un gros fagot.
Curieuse? Curieux?
Avocacé, c'est exercer obscurément la profession d'avocat.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Balnéation, outeron, falourde, avocacé, voilà des mots qui ont disparu de notre langue française et pourtant, qu'est-ce qu'ils sonnent bien. Bonjour Bernard Cerchilini.
Bonjour.
Soyez bienvenue.
Vous êtes linguiste, vous avez comparé, c'est votre voix qu'on vient d'entendre évidemment, vous avez comparé l'édition du dernier Larousse, bonne idée, avec le dictionnaire publié par le fondateur Pierre Larousse en 1871. Moi, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, il doit y avoir une quantité de mots, je ne sais pas, 20-30% peut-être de mots qui ont disparu depuis 1871. Alors?
Et je pensais comme vous jusqu'à faire le travail.
Oui.
Et il y a à peu près 10% simplement. C'est-à-dire que, rendant hommage à Pierre Larousse, qui a bien décrit l'essentiel de la langue française et qui a aussi eu des idées, des intuitions sur sa future modernité.
Pourquoi ils disparaissent, ces mots? Parce
ils disparaissent
qu'on n'en a plus besoin, ou on les aime pas, on les trouve moches tout d'un coup?
Tout à la fois. Ils décrivent des objets ou des pratiques ou des métiers qui ont disparu. Mais aussi, il y a des tendances dans la langue. Par exemple, Larousse apparemment affectionnait des adverbes en ment, très lourds. Ils ont disparu de la langue et donc du petit Larousse.
Et puis il y a aussi de la simplicité dans ce dictionnaire de Pierre Larousse. On le verra, notamment aujourd'hui, on aime bien faire des périphrases sur certains mots, sur certains verbes. On verra qu'il utilisait des verbes du premier degré qui sont très efficaces. Il y a aussi les métiers disparus, on en découvre quelques-uns avec vous. Par exemple, un aleignier, c'est quoi un aleignier?
C'était un métier courant pour Larousse. C'est quelqu'un qui fabrique ou qui vend des alènes.
C'est-à-dire
ces poinçons qui servent aux cordonniers.
Ah, très bien.
Le cordonnier a toujours la laine fraîche, bien sûr.
Mon oncle, les cordonniers, ils sont très bons.
J'espère bien. Et un chauffournier, c'est quoi un chauffournier?
C'est un mot ancien, on voit bien, car il décrit un ouvrier qui travaille dans un four à chaud. Mais la construction est à l'inverse. Un chauffournier travaille dans un four à chaud. C'est un très beau mot ancien.
La France de Pierre Larousse, 1871, elle est encore très rurale. Il y a forcément des outils qui ont disparu aussi. Lesquels, par exemple? Des noms d'outils.
Il est né en Bourgogne, hein, ouais. Il connaît bien sa société rurale. Il y a toute une série de mots, par exemple l'aplatissoire, c'est un mot qu'on utilise dans la forge. Son père était forgeron. L'aplatissoire est un gros marteau qui permet d'aplatir le métal. Le jeune Pierre Larousse l'a vu régulièrement.
Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'affinoir.
Ah,
qu'est-ce qu'on
finoir.
A affiné avec?
Eh ben, le chanvre et le lin, on ne le fait plus, mais donc il a vu aussi des paysannes qui utilisaient un affinoir. Il y a toute, chez Larousse, une image de la société bourguignonne de son enfance, de sa jeunesse.
Bernard Cerchilini, vous publiez les mots disparus de Pierre Larousse aux éditions Larousse, évidemment, et on y découvre une France patriarcale, c'est aussi ça la France de 1870. Quels en sont les indices dans ces mots disparus?
Il y en a un qui me frappe. Larousse était un homme de progrès. Il était opposant républicain sous le Second Empire. Il a même salué la Commune. Il était néanmoins de son temps. C'est-à-dire qu'une époque où la femme n'exerce pas de métier et où le féminin est conjugal. Je veux dire qu'une ambassadrice, à l'époque, c'est seulement l'épouse de l'ambassadeur. Et Larousse a cette conception, par exemple, dans son dictionnaire, une perruquière n'est que l'épouse d'un perruquier. Apparemment, elle n'est pas digne de préparer des perruques elle-même.
Ça perdure quand même, parce que moi, on m'a souvent dit, on ne dit pas la pharmacienne pour dire la personne qui tient la pharmacie. La pharmacienne, c'est forcément l'épouse du pharmacien.
C'était comme ça,
madame.
Il y a
des résistances.
C'était, oui, bien sûr, des résistances académiques en particulier. Mais l'usage, maintenant, est général. Une pharmacienne, c'est une femme qui tient une pharmacie.
J'aime beaucoup quand vous m'appelez madame.
Notre voyage au temps de... Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Notre voyage au temps de Pierre Larousse continue à la fin du 19e siècle, dans ces années 1870 et quelques. Y avait-il déjà des anglicismes ? Réponse dans un court instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Quel Jeannot, ce galonnier, il passe son temps à chopiner.
RTL.
Des mots disparus qui prennent leur revanche.
Sidonie Bonnec.
Version 2017, ça donne. Quel imbécile, ce fabricant de galons, il passe son temps à boire du vin.
Thomas Hugues.
On trouve parmi ces mots beaucoup d'anciens métiers aujourd'hui disparus. C'est le cas aussi de blattier, le marchand de blé.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Ou aussi des outils d'antan, comme l'affinoir, un instrument qui servait à affiner le chanvre.
Les curieux sont sur RTL.
Amandine Bégaud, qui fait la revue de presse dans la matinale d'Yves Calvi, savoure aussi ces mots incroyables, ces mots anciens,
mais
ces mots disparus.
Mais sans la musique des chiffres et des lettres.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est un montage de notre réalisateur Sébastien Duduit.
C'est Sébastien qui
grand fou. C'est un savoureux voyage dans le temps qu'on vous propose sur RTL, un voyage dans les années 1870. Et on recherche justement ces mots aujourd'hui disparus. Et c'est le linguiste Bernard Cerchilini qui nous dévoile ces mots oubliés qui ont une saveur agréable et qui étaient bien présents dans le dictionnaire, en revanche, de Pierre Larousse en 1871. Par exemple, ce mot hollandais, ça n'a rien à voir avec la politique, ou alors il avait un peu d'avance.
Il avait beaucoup d'avance, en effet. Non, et c'est partie de ces mots que je qualifierais un peu de surréaliste. Hollandais, pour Larousse, signifie tremper des plumes dans les cendres chaudes pour les dégraisser. Je ne vois pas bien à quoi ça sert, mais c'est merveilleux. Hollandais, c'est très poétique.
Une marée noire, ça peut servir.
En effet, vous avez raison. Vous avez raison.
Ah ouais, il y a aussi ça. Le mot panage, il nous révèle une pratique rurale, mais laquelle ?
Là aussi, c'est une société rurale ancienne. Le panage, c'est le droit que vous avez de mener des porcs dans une forêt pour qu'ils se nourrissent de glands.
D'accord, effectivement.
Il a dû connaître le panage quand il était jeune, à Toussy, dans l'Yonne.
Parce que quand vous dites qu'il a dû connaître, etc., il crée le premier dictionnaire, d'une certaine façon. Pierre Larousse, il invente un genre.
Oui, il invente le dictionnaire manuel et pour tous. Ouais. Avant lui, on avait eu de grands dictionnaires, naturellement. Mais il a créé en 1856. Nous avons travaillé sur la dernière édition qu'il a corrigée. Ouais. 1856, il invente le futur Petit Larousse, le livre de poche. Qui coûte pas cher, ouais. Qui a une vingtaine de mille de mots ouais. Avec de la phonétique, avec un peu de grammaire. Enfin, le livre qui tient. Le Petit Larousse, ce livre qu'on a chez nous et où tout le savoir sur la langue et sur le monde est inscrit.
Et aujourd'hui, à votre manière, vous publiez un dictionnaire aussi, Bernard Cerchilini, Les mots disparus de Pierre Larousse, aux éditions Larousse, forcément. On y découvre les tout premiers anglicismes. Il y en avait beaucoup dans ce dico de 1871.
Pas trop, pas beaucoup, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous disparu. Larousse cite fashion, qui était déjà...
Oui,
fashion, c'est un mot de l'époque romantique. Balzac disait il est très fashion, Stendhal le dit aussi. Il y a la high life, on ne dit plus. Non. Il y a le keepsake, qui est un petit livre que lisaient les dames à l'époque romantique. Ouais. Il y a le sportsman, le railway... L'arrivée des chemins de fer.
Le steamboat aussi.
C'est que cette navigation qui est encore très importante et qui se modernise. Le steamboat, le railway, tous ces mots ont disparu.
Sauf quand on est cruciverbiste. Ils sont très souvent cités dans les mots croisés de Michel Laclos.
Mais c'est très juste. Mais ça nous rassure parce qu'un anglicisme, c'est un mot à la mode. Et les mots à la mode se démodent.
Mais alors, à partir de quel moment les anglicismes ont commencé à envahir pour notre bonheur et parfois pour notre malheur notre langue?
Jusqu'en 1950, c'est l'italien qui donne le plus de mots au français depuis la Renaissance. Et tout bascule en 1950. l'anglais devient la langue qui donne le plus, et surtout...
L'après-guerre, c'est pour ça.
C'est l'après-guerre, ouais. C'est l'après-guerre pour des raisons bien évidentes, et surtout, on ne francise plus les anglicismes, à mon grand regret. Au XVIIIe siècle, un bowling green est devenu un boulingrin. Au XIXe siècle, un packet boat est devenu un paquebot. Et malheureusement, on continue, c'est dommage. On a la morphologie qu'il faut, la phonétique qu'il faut, pour franciser ces termes.
Alors, je parlais aussi de ces verbes du premier groupe qu'on retrouve dans le dictionnaire de Pierre Larousse, cette donc dernière édition corrigée de son vivant en 1871. Par exemple, établé, incidenté, quittancé, victimé, ils ont disparu et pourtant ils sont super simples.
Larousse fait partie de l'association à laquelle j'ai adhéré, des amis de la première conjugaison. Car on dit toujours que l'anglais crée aisément des mots et des verbes.
C'est vrai.
C'est vrai, mais le français aussi. Nous avons la première conjugaison qui permet, à partir de n'importe quel nom, de former un verbe. Et Larousse utilisait établé pour conduire des bêtes à l'étable, quittancer son propriétaire pour donner une quittance, arrêt un commerçant pour lui donner des arts, ainsi de suite. Ce processus a un peu disparu en français de France, mais il se maintient dans la francophonie. J'ai publié l'an dernier, un livre chez Larousse sur les francophonismes, où j'ai relevé siester en Afrique pour faire la sieste, gréver pour faire la grève, agender une note en Suisse pour la noter dans son agenda, réciproquer des vœux en Belgique. Il y a là une capacité de la conjugaison première à former des néologismes.
La curiosité continue sur RTL. Tiens, et si on militait pour le retour de certains mots anciens?
Allez.
Par exemple, colluder, gargotage, rabonir. Mais ça veut dire quoi, juste?
8 lettres. Je pense que je vais gagner cette partie des chiffres et des lettres.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Toujours avec le linguiste Bernard Cerchilini, grâce à vous, on fait renaître ces mots disparus de notre langue française et c'est un bonheur. On voudrait même en voir certains revenir, être utilisés de nouveau au quotidien. Par exemple, rabonir. Qu'est-ce qu'on pourrait rabonir ?
Rabonir, c'est intéressant parce que ça n'est pas bonifié. Hein. Ouais. Rabonir, c'est rendre à un objet une qualité qu'il a perdue.
D'accord. Oui.
Et donc, on n'a pas de mots exactement. On a bonifié, rebonifié. Oui. Rabonir est très bien. Adoptons-le.
Allez, ça y est.
Je prêche un peu pour que tous ces mots-là qui sont endormis, qui dorment dans les feuillets d'un vieux dictionnaire, s'éveillent.
Et si on se disait que chaque jour, dans la curiosité, on utilisait un mot oublié? On va garder votre dictionnaire et on va se lancer ce défi-là.
C'est un joli défi, Sidonie. Le verbe colluder, alors j'ai une petite idée, parce que je vais penser à collusion. On pourrait l'utiliser dans beaucoup d'affaires judiciaires, c'est ça?
On n'est pas très loin de collusion. Au départ, c'est colludérer, c'est-à-dire jouer avec quelqu'un.
Ouais.
Et c'est être d'intelligence avec une personne pour en tromper une troisième. C'est intéressant, hein? C'est une complicité.
Vous imaginez le nombre d'arnaques, d'affaires judiciaires qu'on raconte
dans nos journaux. On va le prêter à Julien Courbet,
mais oui,
le colludé.
Ils ont colludé contre une personne, c'est merveilleux.
Bernard Cerchilini, vous publiez Les mots disparus de Pierre Larousse aux éditions Larousse. On y découvre ces mots qui chantent, qui sonnent bien. Il y a par exemple claque-dents, coin fêtu, courte-botte, fouille au pot, pas de pelu. Pince-maille,
on croirait que ce sont des contrepétries, vous savez, on cherche la contrepétrie dans le mot, mais c'est pas ça. Ils
on
ont
croirait
existé.
Ce que mon regretté ami François Karadec appelait les fausses contrepétries.
Ouais.
Et c'est excitant parce qu'on cherche la contrepétrie. Il n'y en a pas.
Alors on ne va pas tous les reprendre.
La pâte pelue, c'est magnifique. C'est la pâte pleine de poils, la pâte d'un chat. C'est un hypocrite, un gros matou qui arrive à ses fins par une fausse honnêteté. C'est merveilleux, pâte pelue.
Un fouille au pot, ça...
C'est un petit marmiton. C'est quelqu'un qui est là pour tourner les sauces, simplement. C'est joli. N'oubliez pas qu'il était bourguignon. Et donc, toute la gastronomie est importante pour Larousse, qui aimait beaucoup le dimanche recevoir ses amis et les traiter.
Alors, il y a aussi les mots de nos cuisines. Une cognasse. Une cognasse, ce n'est pas une insulte.
Non, non,
promis.
Non.
C'est quoi
non,
une cognasse?
C'est un coin sauvage, vous voyez. Vous avez sursauté à tort.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes senti visé.
Curieux.
Non, méfiez-vous.
Qui décide d'exclure un mot du dictionnaire parce que ça arrive tous les ans, donc...
Non,
pas tous les ans.
Non, j'ai beaucoup de vénération pour Georges Perec, je suis membre de l'Oulipo, et Perec, dans la vie mode d'emploi, a créé un personnage qui travaille chez Larousse et qui est un tueur de mots. En fait, oui, mais en fait, on tue très peu de mots. On attend les révisions générales tous les 10 ans, et avec beaucoup de soin, beaucoup de prudence... On élimine quelques mots, mais en général...
Oui, mais il y en a, pardon, je vous interromps, il y en a quelques dizaines de nouveaux qui rentrent chaque année dans le dictionnaire. Donc, il ne peut pas non plus...
Non.
Il n'est pas extensible, ce dictionnaire.
Non. 150 tous les ans, et ouais. Là aussi, c'est un crève-cœur, parce qu'on pourrait en faire rentrer 500 de bons mots. Alors, on joue sur la typographie, sur l'épaisseur du papier, on joue pour les maintenir. Car un mot ne meurt pas, il dort, il est virtuel. Il peut se réveiller. Et donc, c'est seulement tous les 10 ans, je vous donne un exemple. Il y a une dizaine d'années, on a fait disparaître le verbe minitélé. Car vraiment, plus personne. Mais nous avons gardé le minitel qui peut apparaître encore dans un roman ou dans un journal. Mais le verbe minitélé, là, il a valu.
Ou quand Sidonie veut se moquer de moi en rappelant que j'ai passé la moitié de siècle. Vous dites,
genre,
vous êtes encore à l'âge du minitel.
Mais j'ai quand même consulté mes résultats de bac sur un minitel, donc je la ramène
très
pas
sympa,
trop quand même.
Sidonie. Le Larousse, dont le symbole est immuable, cette semeuse qui souffle les akènes d'un pissenlit. Mais qui en a eu l'idée? Réponse tout de suite sur RTL.
Et puis, on vous invite à l'opéra dans quelques minutes, mais pourquoi appelle-t-on les jeunes danseuses des petits rats?
14h-15h.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et les mots disparus au menu de notre curiosité cet après-midi sur RTL. On est toujours, et c'est un bonheur, avec le linguiste Bernard Cerchilini. Je rappelle que vous avez eu la bonne idée de comparer le Larousse 2018 et celui de 1871. Le Larousse dont le symbole est la semeuse qui insuffle la connaissance, le savoir. Qui en a eu l'idée de cette semeuse?
Eh bien, c'est pas Pierre Larousse, car il est mort en 1875.
Ouais.
C'est le grand peintre Art Nouveau Eugène Grasset qui, en 1890, a dessiné cette semeuse merveilleuse qui répand les akènes de pissenlit contre le vent aussi.
C'est vrai.
Dans un instant, on va pousser les portes de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Est-ce qu'il y a des mots dans votre dictionnaire, des mots qui ont disparu et qui parlent de la danse, de l'exercice de la danse, des mouvements?
Eh bien, je demande à notre amie si elle connaît le mot escousse, qui était courant chez Larousse et qui désigne l'élan que l'on prend pour mieux sauter. J'imagine.
Bienvenue, Ariane Dolphus.
Bonjour.
On vous pose une colle pour commencer.
Voilà, escousse,
excusez-moi.
Non, mais on doit trouver ça dans des traités de chorégraphie sous Lully ou sous. Ah. Certainement, non?
Sans doute. C'est déjà un mot ancien, car Larousse, je dois l'avouer, le donne comme peu usité.
Donc, on l'utilisait déjà assez peu en 1860. Voilà, on a appris aussi le mot escousse. Merci beaucoup, Bernard Cerchilini. Vous publiez donc ces mots disparus.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
De Pierre Larousse aux éditions Larousse.
Vous écoutez RTL.